les enfants de Chronos.
Bonjour à tous, je suis Gilles Baudin et je suis le président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis. Je vous ai retracé à grands traits l'histoire antique de la ville de Senlis et nous avons vu comment les arènes avaient au XIXe siècle complètement disparu du paysage. Portons maintenant un regard sur les préoccupations historiques au XIXe siècle. Les premières sociétés savantes archéologiques, historiques, scientifiques et littéraires ont vu le jour au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, elles se multiplient, se régionalisent et s'intéressent au patrimoine. Elles prennent souvent comme leurs membres le nom d'antiquaires, c'est-à-dire qu'ils se passionnent pour l'Antiquité. La Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis fut fondée le 29 novembre 1862 sous le nom de Comité archéologique de Senlis au Collège Saint-Vincent, dans le lycée Saint-Vincent qui existe toujours, sous le patronage d'Achille Peignet de la Cour. Achille Peignet de la Cour était sociétaire de la Société de Noyon et son ambition était de créer une nouvelle antenne de la Société des Antiquaires de Picardie qui, elle, avait été créée en 1836. Cependant, Senlis ne fut jamais affilié à la société picarde, considérant qu'elle n'était pas picarde. Et pour constater cet état de fait, elle prendra le nom de Société d'Histoire et d'Archéologie en 1921. Et elle sera reconnue d'utilité publique le 21 avril 1877. Dès l'origine, elle a pour devise, et on va faire un petit peu de latin si vous voulez bien, donc sa devise latine, c'est « Antiquam excuere matrem », ce qui veut dire « rechercher l'antique mer ». Ses statuts précisent encore aujourd'hui qu'elle a pour but de rechercher, de décrire, d'étudier les personnalités, les événements et les monuments historiques, les vestiges archéologiques, les œuvres d'art qui intéressent la ville, l'arrondissement et l'ancien diocèse de Senlis. Au passage, d'ailleurs, ici, on doit s'intéresser aussi à Crépy-en-Valois. L'équipe des fondateurs réunissait autour de son président Jean-Baptiste Voilmier. Jean-Baptiste Voilmier était médecin, bibliophile, numismate reconnu, et sa fille épousera le peintre Tattegrain. L'abbé Fortuné Magne, qui était enseignant au lycée Saint-Vincent, plus enseignant qu'ecclésiastique d'ailleurs, Victor Chartier, maire de Senlis, Amédée de Quai de Saint-Émour, étudiant, chartiste et futur polygraphe, Jules Gérin, aussi enseignant au lycée Saint-Vincent, mais également secrétaire du comité, et dessinateur, il avait été l'élève de Thomas Couture, peintre de Senlis. Sous le Second Empire, la recherche historique et archéologique antique est à la mode. On se passionne pour ces civilisations gauloises et gallo-romaines qui précèdent le développement du pays. Pour le dire, on recherche en quelque sorte les origines légendaires de la France. L'empereur Napoléon III, qui est aussi en recherche d'une légitimité, lui-même a le goût de l'étude. Il se livre à des recherches. Il écrit une monumentale histoire de Jules César. Et il s'entoure pour cela d'une équipe d'auteurs reconnus tels que Prosper Mérimée, Alfred Maury et Victor Duruy. Victor Duruy est le ministre de l'Instruction publique. Achille Peignet de la Cour, notre initiateur du comité archéologique, entre alors, et maladroitement, en controverse avec l'empereur à propos du lieu où César défie les Bélovaques. Les Bélovaques étant le peuple gaulois qui précède Beauvais. Achille Peignet de la Cour, il faut quand même le dire, avait assez mauvais caractère et n'aimait pas la contradiction. Napoléon III favorise le développement d'une archéologie nationale. En 1861, il a visité Alice Sainte-Reine, qui a été identifiée avec Alésia. Il s'est rendu ensuite à Gergovie et à Bibracte. Et en 1862, il a créé le musée des antiquités celtiques et gallo-romaines. Et ce musée, en 1867, a été transformé dans le musée du château de Saint-Germain-en-Laye, exclusivement consacré à l'archéologie nationale, comme il l'est toujours aujourd'hui. Il a chargé, en 1858, une commission topographique de dresser la carte des Gaules. Et le comité de Senlis s'adressera à cette commission quand il découvrira les arènes. Napoléon III, toujours, a créé des chaires d'antiquité à l'école normale supérieure, à l'école des chartes et au collège de France. Et il s'attache tout particulièrement aux fouilles archéologiques et à la mise au jour des camps de César. Il a lancé des recherches en forêt de Compiègne, entre Pierrefonds et Auruy, en 1850. Et quelques années plus tard, il a lancé Viollet-le-Duc pour mener une campagne de recherche non loin de là, pour dégager en 1868 l'ensemble gallo-romain de Champlieu, avec le temple, son théâtre et ses thermes. L'exemple venait de haut, donc, pour les recherches, et bon nombre de contemporains de Napoléon III se passionnent pour les antiquités nationales. Aussi, les fondateurs du comité archéologique de Senlis s'emploient-ils naturellement à découvrir d'autres vestiges du passé romain de leur cité. La découverte des arènes, ou plutôt devrait-on dire de l'amphithéâtre gallo-romain de Senlis, mais à Senlis la dénomination arène est devenue traditionnelle, donc cet édifice de spectacle du 1er siècle de notre ère, sera la grande affaire de la société pendant 30 ans. Au tout début de 1865, Félix Vernoy, membre de la société, ancien maire de Senlis en 1848, membre du conseil municipal et propriétaire. Le fait d'être propriétaire, c'est presque un métier à l'époque, c'est une raison sociale. Donc Félix Vernoy recherche les monuments antiques de Senlis. Il est d'une vieille famille de Senlis par sa mère et il a alors 51 ans. C'est un homme apprécié de ses concitoyens, investi dans la vie publique. Il était capitaine de la compagnie des sapeurs-pompiers de la ville en 1842. Depuis 1843, il est presque constamment conseiller municipal et il s'occupe à la présidence de la Société des eaux de Senlis de la distribution aux habitants et à la présidence de la compagnie du gaz de l'éclairage public. D'un tempérament volontaire et optimiste, nous avons son portrait dessiné par Thomas Couture, qu'il représente barbu et moustachu, le front dégarni, le nez droit. Et Thomas Couture a ajouté sous sa petite signature habituelle rageuse de TC, d'une écriture un peu pointue, il a ajouté cette dédicace au meilleur des pilotes. Félix Vernoy s'intéresse à la toponymie, c'est-à-dire l'origine des noms, et il s'intéresse au faubourg de la Fontaine des Reines. Les Reines écrites R-A-I-N-E-S. Il s'agit des grenouilles. Et ce toponyme lui suggère une altération de celui de Fontaine d'Arènes, du nom de la source Tari. Elle était située vis-à-vis du Pré de l'Évêque, en contrebas du plateau, qui portait une dépression en cuvette. Et il va étudier les chartes qui concernent ce pré et qui confirment qu'il était sur la trace de l'amphithéâtre. La Gallia Christiana, entre autres, qui est une volumineuse ou plutôt une monumentale publication historique du XVIIe au XVIIIe siècle. Il s'agit de 16 énormes et lourds volumes. Vous savez, ces volumes reliés en veau, impossibles à manier et impossibles à ouvrir, beaucoup trop lourds, qu'on peine à porter. Cette étude est entièrement rédigée en latin. Et elle fait état d'une bulle du pape Luce III, datée de 1182, qui confirme les possessions du chapitre de Senlis, alors c'est en latin, mais c'est facile à comprendre, « in prato episcopis juxta fontem arenarum », donc dans le champ de l'évêque, à côté de la fontaine des arènes. Et d'autre part, Don Grenier, un historien du XVIIIe siècle, qui avait travaillé avec un amateur senlisien, à Forti pour ne pas le nommer, situait dans son introduction à l'histoire générale de la province de Picardie, les arènes sur le chemin de la Gatelière, qui était une propriété qui existe toujours à la sortie de Senlis en allant vers Chantilly, grâce à une charte de l'abbaye de Chaly datée de juin 1275, « Exuna porte vico qui dissitur des arènes ». Les exemples de pièces d'archives du XIVe siècle et du XVe siècle, tant en français qu'en latin, ne manquent pas. Ainsi, en vieux français, en 1342, « Nos près d'arènes de les Senlis », ou en 1343 en latin, Prato nostra juxta fontem de Arenis. Le glissement phonétique d'Arenarum vers les reines, nos grenouilles, s'était donc fait de lui-même.